بسم الله الرحمن الرحيم. Donc pour ce qui concerne la deuxième partie et plus spécifiquement le problème contemporain, je vous rappelle simplement une chose que j'avais dite à ceux qui étaient présents lors du dernier cours. Vous recevez, quand vous participez à ce séminaire, vous recevez des bulletins. Et vous aviez reçu, en particulier, la dernière fois, le bulletin 17 et le bulletin 18 de présence musulmane, dans lesquels vous trouvez trois choses. Une première chose, vous trouvez quatre choses. Vous avez un premier article, qui est un article plutôt de cœur, de rappel. Le premier du 17, c'était le tawhid. Le deuxième, c'était le respect des parents. Vous trouvez également l'ensemble des dates concernant les cours, ces cours ont lieu dans les séminaires ont lieu dans les différentes villes. Et le malheur, c'est que pour le numéro 18, il y avait quelques erreurs pour les dates concernant votre région, Annemasse. Vous trouvez également l'annonce du Fonds de coopération Afrique qu'on vous avait demandé de soutenir la dernière fois et dont on vous parlera la prochaine fois, Inch'Allah. Et vous trouvez un article de fond dont, pour nous, il est important que vous preniez connaissance. Pourquoi ? Parce qu'il est la trace écrite de ce qui va être dit maintenant. La dernière fois, nous avions parlé de la réalité d'une présence musulmane saine en Europe et en France en particulier. Et puis cette fois-ci, nous allons continuer sur comprendre et construire. Ça veut dire que dès que vous aurez suivi le cours, vous aurez en rentrant à la maison la possibilité de retrouver et le texte coranique en prenant sourate al-Baqara et en relisant les versets pour vous imprégner. Et puis vous aurez ce bulletin qui devrait vous permettre par la lecture de garder les points essentiels qui auront été traités ici. Mais on espère évidemment que vous allez faire l'effort de lecture. Parce que le malheur, c'est que parfois on vous donne deux pages, et même ces deux pages, elles passent par pertes et profits. C'est tout juste si vous trouvez que la graphie est jolie, quoi. Donc on vous demande de faire un travail de lecture quand même. Bien. Alors, j'aimerais sur cette question, la question qui nous occupe, le thème qui nous occupe, comprendre l'islam en fait et construire son avenir, j'aimerais faire une première introduction. Cette première introduction, elle consiste simplement à rappeler ce que j'avais dit la dernière fois. Ce qui avait été dit la dernière, simplement à rappeler le cadre, puisqu'il y a quand même une évolution. Je ne sais pas s'ils se disputent ou s'ils se parlent. Nous sommes présents en France, nous sommes présents en Europe. Et il faut se poser la question de savoir bien comment cette présence se traduit-elle. Et j'avais proposé la dernière fois les cinq piliers d'une saine présence. Sur quoi se fonde notre présence en France. Et j'avais mis en évidence cinq principes que je vais simplement citer comme nous aidant à être présents ici, dans ce pays, et à partir desquels nous allons pouvoir construire notre avenir et penser la voie que nous avons à suivre. Et vous voyez donc qu'il y a entre cette partie et le tafsir sur la voie à suivre des relations. Les cinq piliers d'une saine présence, quel était-il ? Premier principe, c'est celui de protéger sa foi, c'est de protéger sa pratique, c'est de protéger sa spiritualité. Ça veut dire rester, demeurer, musulmane et musulman, comme un des principes essentiels, c'est-à-dire être ce que nous sommes et que nous avons envie d'être. Ça veut dire aussi ne pas verser dans la tentation pour être français, d'être moins musulman. Mais plutôt d'affirmer clairement qu'être bon musulman, de bien comprendre sa religion, c'est ce qui me permettra effectivement d'être un bon résident ou un bon citoyen de ce pays. que l'un ne va pas contre l'autre. Deuxième principe, c'est qu'à partir du moment où on est dans cette tradition et qu'on se réfère à l'islam, cela a une conséquence, c'est qu'il y a une dimension éthique, une morale. En islam, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas avoir un comportement qui ne répond pas à un certain nombre de critères moraux. Donc, il y a des choses que je respecte et il y a des choses dont je m'éloigne. Comportement éthique, responsabilité, conviction, éthique. Troisième principe, c'est que là où je suis, quelle que soit la société dans laquelle je vis, je dois participer, je dois faire le bien. Ce que je disais tout à l'heure aussi, nous sommes des êtres de participation sociale, de participation et de réforme surtout. Partout où Dieu me met, je dois produire le bien, c'est-à-dire produire du bien, participer socialement, dans la solidarité, dans le bien-être des êtres humains, femmes et hommes. Donc, un principe d'être des réformatrices et des réformateurs des sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Quatrième principe, c'est celui d'insister sur le fait que nous devons développer une inaliénable indépendance. Nous devons être indépendants. Nous devons être indépendants dans notre cœur, c'est-à-dire d'être dépendants que de la vérité dans notre cœur. Ça veut dire ne pas nous soumettre à des enjeux partisans, c'est ma société, c'est mon association, c'est mon groupe, ma tendance. Non, si je suis dépendant de la vérité et j'essaye de plaire à Dieu, je peux être dans un groupe, je peux être dans une association, mais je dois être respectueux d'abord de la vérité et de ne pas défendre mon groupe ou mon association, même quand ils sont dans l'injustice, l'une ou l'autre, ou quand elles sont dans l'injustice, ou l'association, ou l'organisation, ou mon groupe, ou autre. C'est aussi une indépendance intellectuelle. Ça veut dire développer une intelligence qui essaye de trouver la justice, d'avoir un esprit critique. C'est ce qui manque beaucoup dans cette communauté, l'esprit critique. Troisième élément de l'indépendance, c'est d'être indépendant financièrement et politiquement. C'est pas au gouvernement français de décider qui je dois être ou de décider comment doivent s'organiser les musulmans. Même s'il veut accompagner le processus, c'est une chose, mais imposer, c'en est une autre. Et je dois être indépendant financièrement, c'est-à-dire que c'est ce que vous faites, par exemple, ce soir, en payant pour participer, ça permet aux organisateurs de ne dépendre de personne, de pouvoir dire ce qu'on veut ici, et de ne pas dépendre de gouvernement ou de qui que ce soit. Donc, indépendance, inaliénable. Quatrième principe. Donc, je répète, premier principe, défendre sa foi, sa spiritualité, sa pratique. Deuxième principe, avoir un comportement moral. Troisième principe, être un réformateur et une réformatrice, là où on se trouve, on agit pour le bien. Et quatrième principe, l'indépendance. L'indépendance totale. Et cinquième principe, nous sommes des défenseurs de la justice. Pour les musulmans, mais pour tout le monde en fait. Et on n'est pas partisan, c'est-à-dire que un musulman injuste, je ne le soutiens pas. Je m'oppose à son injustice et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Rasulallah qui avait dit que aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Waliman au mazloum, c'est-à-dire qu'il soit juste ou injuste. Mais les gens ont dit, je peux l'aider quand il est juste, mais comment est-ce que je fais pour l'aider quand il est injuste? Le prophète Rasulallah a dit, fais-lui cesser son injustice. Donc, il faut être promoteur de la justice où que nous soyons, pour nous-mêmes comme pour tout le monde. Bon, ça c'est les cinq principes, c'est le cadre. Maintenant, on a une question. Il y a une question à laquelle il faut que nous répondions de toute urgence. Nous sommes en France et ces principes-là, c'est ce qui nous permet de rester musulmans, d'être nous-mêmes. C'est ce qui répond à l'arbre, avec ses racines, avec son tronc. Je suis ceci et je fais attention à ces cinq principes pour demeurer. Mais dans ce moment-là, il ne nous demande pas que ça. C'est pas simplement soit là où tu es, ce que tu es, sans rien faire d'autre. Après, tu dois suivre une voie. Ce dont je viens de parler, c'est quoi notre voie en France? Qu'est-ce qu'on veut à l'avenir? Finalement, votre projet, quel est-il? Qu'est-ce que vous voulez? Restez musulmans, vous, puis qu'est-ce qu'il adviendra des enfants? Comment est-ce qu'on va transmettre aux enfants ce qu'est le sens de leur foi, le sens de leur pratique, le sens de la morale, le sens de l'indépendance? Comment est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'on veut pour nous dans ce pays? Quel est notre chemin? Alors, on sait, « Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un », c'est universel, d'accord, mais ça se concrétise comment ici? Comment on va faire? Comment on va faire pour rester sur la voie ici en France? On doit répondre à cette question-là. On doit y répondre pas de façon superficielle. Oui? Alors pour certains, c'est je m'isole complètement de ce pays. C'est-à-dire je suis là, mais je ne suis pas là. C'est je suis en France, mais je ne vis pas en France. Et il y en a d'autres, Tu disparais complètement. Tu es tellement ici que tu n'es plus rien. Tu as disparu dans la foule. Tu as disparu dans la pratique ou dans les activités de tous les gens. Tu t'es dispersé totalement. Donc on est entre ces deux pôles. Entre le pôle de « je résiste dans l'exclusion ou l'auto-exclusion », c'est-à-dire « je vis entre moi et les miens, et j'ai rien à voir avec cette société », comme certains nous le proposent parfois, et l'autre qui, lui, alors, a complètement disparu, tu vois plus de différence, ni dans sa religion, ni dans sa pratique, ni dans son éthique, ni dans... Il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il est normalisé, banalisé. Bien, quelle est notre voie ? Comment on va mettre sur pied dans ce pays tout ce dont je viens de parler tout à l'heure, à savoir comprendre un message, suivre un messager, essayer d'être pour Dieu l'unique, développer une spiritualité, une intériorité, développer également aussi la connaissance de nos références et développer l'amour de la connaissance. Comment on fait ? Eh bien, pour répondre à cela, pour répondre finalement à la question que nous nous posons, comment être fidèle à nos sources, comment être fidèle à notre message, nous avons à répondre à deux questions. Deux questions. La première question, elle est, en quoi mes références musulmanes, le Coran ou la Sunna, la tradition du prophète, et puis le Coran, en quoi ces deux références me permettent-ils un meilleur enracinement dans cette société-là ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux tirer de mes sources qui me permettent de bien m'intégrer au sens de m'enraciner, au sens de vivre dans ce pays-là. En quoi ma connaissance des textes me permet de mieux vivre dans cet environnement et dans ce contexte-là? Bien, ça c'est la première des questions. La deuxième des questions, elle va dans l'autre sens. En quoi le contexte français ou européen ou occidental, mais en quoi le contexte dans lequel je vis me pousse à renouveler la lecture que j'ai des textes? Le Coran et la tradition du prophète. Et souvent, je m'arrête sur ça parce que quand je le dis, les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Ils se disent, oui, non mais attends, il y a un Coran, il n'y en a pas 36 000. Il y a une tradition du prophète, il n'y en a pas 36 000. Et ils ne changent pas, ils sont éternels. Donc, que ce soit en France ou partout, c'est toujours la même chose. Attention, le Coran est le Coran. La tradition du prophète, est la tradition du prophète. Mais le contexte dans lequel je suis change et cela amène à renouveler ma lecture des textes. Et ça, ce n'est même pas moi qui le dis. Quand vous venez à, par exemple, l'imam Shafi'i, il était à Bagdad. Il développe à partir de Bagdad un droit, un fiqh, qui est celui de Bagdad. Puis ensuite, il va se voyager, puis il va aller au Caire. Mais au Caire, il va se rendre compte que le contexte est différent et il va développer de nouvelles prescriptions qui ne sont pas toutes en contradiction avec les premières, mais qui sont sensiblement différentes pour certaines d'entre elles. En d'autres termes, le contexte de Bagdad n'est pas le Caire et que le changement de lieu renouvelle notre compréhension. Alors le changement de lieu renouvelle notre compréhension et l'histoire des idées renouvelle notre compréhension des textes. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit... Dieu, il nous dit, il n'y aura plus de prophètes après le prophète. Il n'y en a plus, c'est le dernier. Mais il nous dit aussi que Allah, inna Allah sayyabatu ala ra'si kulli mitsana. C'est-à-dire que Dieu va envoyer chaque 100 ans, man yujaddidu laha dinaha. Il va envoyer chaque 100 ans qui va renouveler sa religion. Et ça, c'est un hadith authentique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renouveler sa religion ? C'est pas qu'il va nous rapporter un nouveau Coran, non. Le Coran, il est le Coran pour l'éternité. Et la tradition du prophète, A.S.A.T.O.S.A.L.A.M., et la tradition, la sunna, c'est la sunna pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il va nous envoyer des gens qui vont renouveler notre lecture. C'est-à-dire que les textes restent, mais ils nous font comprendre des choses plus largement, plus profondément, en fonction du temps qui passe et en fonction des contextes qui changent. Et donc, deux questions. Comment ma lecture des textes me permet de bien m'enraciner là où je suis, vivre dans cette société? Si le Coran et la tradition sont pour tous les temps et pour tous les lieux, ça veut dire que je dois trouver le moyen pour vivre ici. Et d'un autre côté, deuxième question, en quoi ici, mon univers de référence, me pousse à avoir une lecture renouvelée des textes? Deux questions. Pour pouvoir répondre à ces deux questions, elles sont très importantes. Et avant de se lancer dans qu'est-ce qu'on va construire pour l'avenir, par quoi est-ce qu'on va commencer, comment est-ce qu'on va construire notre vie ici, nous sommes dans l'obligation de passer par la compréhension de ces deux questions et de ces réponses, et de leurs réponses. La compréhension de ces deux questions et de leurs réponses. Alors, pour faire cela, pour aller dans ce sens-là, on va partager l'exposé en deux parties. Quels sont les principes essentiels qu'on peut tirer de nos références, du Coran et de la tradition du prophète, qui vont nous permettre de bien nous enraciner? Donc, comment comprendre nos références? Première partie. Deuxième partie, comment comprendre la France et le pays dans lequel nous sommes pour que nous puissions bien nous enraciner dans cet environnement? Donc, comment comprendre le texte ou les textes? Comment comprendre le contexte? Bien, commençons par la première partie. Et vous imaginez bien que dans un cours comme celui-ci, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais par contre, je vais essayer de mettre en évidence dans la première partie les cinq principes essentiels sur lesquels se fonde notre rapport aux références et qu'il faut bien comprendre. Premier principe. Le premier principe, il est à partir de quand est-ce que je suis musulman? À partir du moment où je dis la shahada, d'accord? J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et j'atteste que Muhammad est son envoyé et son serviteur. Bon, voilà ça. Dès que j'ai dit cela, avec mon cœur, avec ma bouche, je suis musulman. Et ça me permet de dire entre parenthèses que nous considérons comme musulman toute personne qui, à partir du moment où il dit la shahada, se reconnaît comme telle. Ce n'est pas à nous aller dire ta pratique ou pas ta... Tu as dit que tu étais musulman, tu as dit la shahada pour toi. Nous, on te considère comme musulman, on ne va pas commencer, nous, à trier en fonction des pratiques. Et ça, pour nous, ce doit être un discours clair. Mais en fait, ce que l'on dit ici, c'est être musulman, c'est dire la shahada. Dès que j'ai dit la shahada et que je suis musulman, j'entre immédiatement dans comment rester musulman. Comment être musulman? Donc, comment être musulman et comment rester musulman? C'est être musulman et comment le rester? Dès que je le suis, j'entre dans une autre dimension. Je le suis dans le plan vertical et j'entre maintenant dans comment le rester. Et le comment le rester, c'est, par exemple, quand j'ai conscience que je respire, puis que je me dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne, c'est Dieu qui me donne la possibilité de respirer. C'est Dieu qui me demande de prier. Dès que je suis avec la conscience qu'il me demande ceci, je suis dans comment rester musulman, puisque je me souviens de lui, d'accord? Ça s'appelle comment? Comment rester musulman? J'entre immédiatement dans la charia, le chemin qui me fait rester fidèle à la source. Et vous comprenez ici que c'est une définition de la charia qui est large, qui n'est pas le code pénal, qui n'est pas le petit élément où on va s'en prendre aux gens qui font le mal. Non, la charia, c'est comment être musulman. Et comprenez-moi bien, parce que certains d'entre nous cessent d'utiliser des termes parce que les gens les comprennent mal. Souvent, il m'est arrivé dans des grandes conférences, j'ai entendu des sœurs ou des frères qui disent « Non, il ne faut pas parler de charia parce que ça fait peur aux gens. » Alors, les médias utilisent le terme dans un certain sens, certains orientalistes dans un certain sens, même certains musulmans dans un sens très réduit, et parce que eux les utilisent dans un sens très réduit et qui font peur aux gens, nous, on devrait ne plus utiliser les termes de notre tradition. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une pensée qui est issue de l'expérience coloniale. La plus grande force du colonisateur, c'est de te voler les mots que tu emploies. Et il leur donne le sens qu'ils veulent, et toi, tu finis par ne plus oser les utiliser. Ah, mais ce n'est pas ça que nous avons à faire. Nous sommes ici dans ce pays et nous avons un vocabulaire. Ce vocabulaire vaut mieux l'utiliser et mieux l'expliquer que de le laisser en se disant « Oh là là, surtout ne parle pas de charia. » Ou par exemple, comme quelqu'un m'avait dit une fois, « Oh, surtout ne parle pas de djihad. » Attends, que certains utilisent mal le terme, que les médias l'utilisent mal en disant « guerre sainte » alors que ça n'a rien à voir avec la guerre sainte, ça ne doit pas faire en sorte que je n'utilise pas le terme. Djihad, c'est l'effort qui me fait résister de toute l'énergie de mon être contre les forces négatives en moi et les forces négatives sur le plan social. C'est-à-dire qu'en moi, il y a de la colère, qu'en moi, il y a du mal. Donc, pardon, c'est pas possible, on vient de commencer. Je peux pas, c'est pas possible. Ah, un quart d'heure. Ah, là, vous êtes en train de me couper, là. Un quart d'heure. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc, c'est l'effort de résistance en moi contre toutes les forces négatives, ma violence, ma colère, puis sur le plan social, contre ce que je disais tout à l'heure, l'exploitation, la terreur et le déni de droit. Donc nous, on reprend nos termes et on leur redonne une juste définition. On ne commence pas à utiliser, à avoir peur d'utiliser les termes, comme si on était des complexés de notre propre langue. Mais oh là là, dis pas ça, qu'est-ce que je vais dire là? Dire qu'on est gentil et qu'il faut nous accepter gentil. Non, on va utiliser les termes et redonner les définitions qui sont les leurs. Donc, et shahada, je suis musulman, et sharia, comment être musulman? Et comment être musulman? C'est avec la prière, c'est avec le comportement, c'est avec, etc., toutes les prescriptions que l'on connaît. Et ceci est déterminant, est vraiment déterminant, pour qu'on comprenne bien qu'en islam, il y a deux axes. L'axe vertical, être avec Dieu, et un axe horizontal, c'est comment je reste avec lui, comment je vais vivre ma vie dans la voie. Donc c'est ça la voie. Et vous m'avez bien compris, ce n'est pas une voie étriquée, c'est vraiment quelque chose de ample, c'est-à-dire qui concerne tout, qui concerne ma prière, mais qui concerne mon comportement social, qui concerne pour que j'ai des principes éthiques, pour que j'ai des principes de comportement, pour que j'ai des principes sociaux. À partir de là, je construis ma vie pour rester dans la voie. D'accord? Et shahada wa sharia. Ça, c'est le premier principe qui est très important pour nous. Et donc, ça veut dire aussi qu'en France, il faut que nous trouvions notre voie, notre sharia. La sharia dans laquelle nous vivons ici, ça sera quoi? C'est quoi la sharia en France? Alors que certains disent, non, la sharia, c'est pour là-bas. Mais non, c'est pas où tu es, il y a la sharia. Tu es tout seul dans une île, il y a la sharia. Tu es tout seul dans une île, tu respires et que tu te souviens de Dieu, tu es dans la sharia. D'accord? Où que tu sois. Où il y a un être qui dit « La ilaha illallah » et qui essaye de rester dans la voie, il est dans la sharia. Et il va considérer ses principes en fonction du lieu où il se trouve. Premier principe. Deuxième principe, très important, il y a en islam des principes universels. Certains principes universels sont universels dans l'exposé et universels également dans la façon de les vivre. Et il y a d'autres principes qui sont universels, mais dont la façon de les vivre va évoluer avec le temps ou avec le lieu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle ethabit, c'est-à-dire ce qui ne change pas, l'immuable, ou al-mutarayir, c'est-à-dire ce qui est passible de changement en fonction de l'époque. C'est universel dans le principe, mais il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Alors, on n'a pas le temps de voir tout ça dans le détail, mais prenons-en quelques exemples. Qu'est-ce qui en islam ne change pas? Principe universel qui ne change pas. Mettons en évidence pour ce soir trois dimensions. La première, c'est qu'il y a une chose qui ne change jamais, qui est partout présente. Tu peux être à Tombouctou, à Annemasse, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Washington. Le principe du tawhid ne change jamais. La ilaha illallah, c'est partout pareil. Comme tu le vis ici, tu vas le vivre partout. Il y a un Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Il est unique, laïsa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble, il est celui qui entend tout et qui voit tout et qui entend tout au-delà de tout ce qui peut être entendu et vu, et donc il est un. Le principe de l'unicité divine. Un. Deuxième principe, qui ne change jamais. Et là c'est très important à le rappeler surtout à ceux qui vivent en France, comme vous, parce qu'il y a une histoire en France qui parfois met en conflit la façon dont on expose les choses. Et moi, je ne cesse de répéter ça depuis des années. Certains font parfois semblant de ne pas comprendre ce qu'on dit. En islam, il y a un principe qui s'appelle le principe de la communauté de foi, la communauté spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous nos actes religieux sont liés à une dimension individuelle et collective. La prière que tu fais à plusieurs, elle vaut 27 fois plus. La prière. Le jeûne, tu le fais seul, mais tu le fais pour être en phase avec les pauvres de la terre. Le pèlerinage, tu y vas seul, mais tu retrouves tous les êtres, la collectivité. Et la zakat, tu la donnes seul, mais tu la donnes à la collectivité. Tous nos actes ont une dimension individuelle et collective. Parce que notre lien spirituel fait de nous, comme nous l'a dit le Coran, « Innamal mu'minun ikhwa ». Certes, les croyants et les croyantes, donc en l'occurrence son frère et sœur. Donc on a cette dimension de la fraternité dans la foi, et qui est une chose très importante. On défend une communauté spirituelle. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on défend un communautarisme. Et certains, on n'arrête pas de le leur dire, mais ils sont toujours en train de dire, oui, mais c'est du communautarisme. Non, on est pour la communauté de foi et on est contre le communautarisme. Le communautarisme, c'est quoi? C'est l'idée qu'on se met ensemble, loin de la société, qu'on veut nos lois, nos règles à nous, on ne veut pas se mélanger. Nous, on n'a jamais dit ça, nous. Nous, ce n'est pas nous qui sommes porteurs de ce projet-là dans la société française. Ce n'est pas vrai du tout. Nous, on dit, il est normal que les musulmans aient envie de se réunir dans les mosquées. Il est normal qu'ils se réunissent dans les fêtes. Il est normal qu'ils aient un sentiment d'appartenance communautaire, qu'on se sente solidaire dans la foi de ceux qui sont nos frères et nos sœurs. Pas quand ils sont injustes. Je suis solidaire avec la foi, mais si tu es injuste, je me lève aussi contre toi, au nom de notre foi commune, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, mais il y a une dimension de solidarité. Et le hadith, même s'il est considéré comme faible par certains, est clair. Man la yahtam bi umuril muslimin fa laysa minhum. Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, il n'est pas des leurs. Et c'est pour ça que quand tu descends en Afrique, tu vois quelqu'un pour la première fois, il te dit frère, il te dit sœur. On a un principe comme ceci de fraternité qui est très important, de solidarité fraternelle aussi. Et ça me fait... une fois, j'étais en discussion avec Christian Delorme, et qui dit, mais quand est-ce que vous allez arrêter? Pourquoi vous êtes des Français là, de confession musulmane? Quand est-ce que vous allez arrêter de dire frère, sœur? Ben jamais. Jamais. On est frère et sœur, point la ligne. Et quand je rencontre un... On a une dimension de fraternité. On n'est pas du tout dans ce type de... Pour nous, c'est très important. Mais on est contre le communautarisme qui est l'exclusion et la ghettoisation. Mais aujourd'hui, qui est producteur de ghettoisation dans ce pays? C'est les musulmans, c'est pas vrai. Nous, on est en train de montrer qu'on est disposé à être dans le dialogue et à être dans la société, à y participer. Mais il y a aujourd'hui, chaque 5 ans, quand viennent les élections, qui est-ce qui travaille sur le communautarisme? Qui vient et qui met sur les listes électorales en 5e position Abdallah, Ahmed? Pourquoi maintenant vous le mettez en 5e position? Pour attirer les voix de qui? Pour attirer les voix des Français d'origine immigrée. Mais qui est-ce qui les stigmatise et qui les met ensemble? C'est cette politique électoraliste. Ça, c'est du communautarisme électoraliste. On n'en veut pas, nous. Pourquoi? On ne veut pas que vous utilisiez simplement des noms pour attirer des gens, puis vous allez frapper à leur porte et dire, si vous votez pour nous, on va peut-être penser à la mosquée. Non, nous, on veut ni vous ni la mosquée, comme ça. Parce que c'est malhonnête, ça. Nous, on ne veut pas de ce communautarisme qui consiste à mettre des noms à consonance arabe pour attirer les votes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens qui ont compris que les votes des Français d'origine immigrée peuvent faire basculer des majorités dans certaines villes. Et donc, on joue avec ça. Et l'autre communautarisme, il vient d'où? Ben, allez regarder en France, allez regarder dans un certain nombre de quartiers. Vous allez voir quoi? Ici, même ici, dans la région ou ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des quartiers qui sont, entre guillemets, pour les Français de souche. Puis, il y a des quartiers pour ceux qui viennent de là-bas. Oui, ça s'appelle comment ça? Ça, c'est du communautarisme économique. Et si tu t'appelles Ahmad à ce moment-là, puis tu dis, moi j'aimerais un appartement là, chez les Blancs, chez les Français de souche. Si tu téléphones et que tu as un accent au téléphone, ben là, tu es sûr, Thierry a déjà pris l'appartement, même s'il est vide. Il y a déjà quelqu'un qui l'a pris. Ou alors, comme ça s'est passé avec un frère à Toulouse, il n'a pas d'accent lui. Il téléphone, il dit, oui, ben venez voir l'appartement. Et quand il arrive... Ah ben, excusez-nous, l'appartement, il est pris. Alors lui, il a senti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a téléphoné, et au téléphone, il s'appelait justement Alain ou je ne sais pas quoi. Et l'appartement était libre. L'appartement, il est pris. Quand on voit ton faciès, il est libre quand on n'entend que ta voix. Surtout quand tu as une voix très française. Alors il est allé les voir, il a dit, écoutez, je vais vous attaquer si vous ne me faites pas, si vous ne me faites pas remplir le dossier. Et il leur a fait peur. Il se trouve que c'est en plus un élu local et qu'ils ont eu extrêmement peur. Ça s'appelle comment ça? C'est nous qui sommes les défenseurs du communautarisme. Qui est en train de parquer les gens toujours quand ils sont d'origine dans des endroits et quand tu veux en sortir, tu ne peux pas? Ceux qui sont économiquement défavorisés ou qui sont d'origine immigrée. C'est ça le communautarisme, c'est de ça dont il faut parler. Pas quand les musulmans parlent de communauté de foi, qu'on leur dise vous faites du communautarisme. Non, on n'en veut pas. On veut libérer ça. On ne comprend pas, par exemple, que dans certaines prisons proches de Lyon, on met d'un côté les Français d'origine immigrée et de l'autre côté les Français de souche. Puis quand on dit mais ça va pas, vous les séparez même en prison? Oui, parce que là c'est de la viande halal. Ça va pas maintenant pour la viande halal, on ne sait pas. On nous prend pour des idiots. On les sépare. Qu'est-ce que c'est que cette société? Et ensuite, après, c'est nous qui sommes accusés. Non, allons voir le vrai communautarisme, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Ce qu'on a fait véritablement dans cette société-là. qu'on américanise un tout petit peu en disant après on stigmatise, regardez la violence, c'est l'islam qui rend, comme un grand penseur belge qui dit l'islam a un facteur criminogène. Je veux dire, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée du propos. Mais enfin bref, fin de la parenthèse, communauté de foi, c'est un principe immuable qui ne change pas. Troisième principe qui ne change pas, également, une fois qu'on a dit la dimension de la communauté de foi, donc un, le tawhid, deux, la communauté de foi, les troisièmes principes qui ne changent pas, c'est tout ce qui concerne les ibadat. Alors à ce moment-là, il nous dit, vous devez prier cinq fois par jour. Ça ne change pas, tu peux aller n'importe où sur la terre, c'est cinq fois par jour. Et on prie tous comme le prophète al-Salam priait, avec quelques petites différences d'école où on met les mains le long du corps, mais ça ne change pas. La zakat, on la donne de la même façon. La prière, on la fait de la même façon. Le pèlerinage, on le fait de la même façon. Et le jeûne, de la même façon. Il n'y a personne qui vous a encore dit, aujourd'hui, en France, tu peux couper le jeûne à 2h de l'après-midi. Non, ça n'existe pas. C'est universel, ça ne change pas. Donc, de ce point de vue-là, on a des principes universels, immuables, dans la pratique. Maintenant, on a en islam des principes universels, mais dont l'application change. Je vais vous donner un exemple. Le prophète as-salam entend Oud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle à la voix de ton Seigneur, donc appelle, fais témoignage de ta foi. La da'wa. Oud'u, la da'wa. Lui, avec un principe, la da'wa, qui est universel, il a quatre méthodes. Dans un premier temps, il appelle les gens. Ensuite, il va y avoir répression. Il fait ça secrètement. Ensuite, dans la persécution est trop grande, il quitte le pays. Puis ensuite, il continue à envoyer des missives. Il a quatre méthodes pour le même principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de la da'wa est un, mais son application concrète dépend des moyens qu'on a sous la main. Bon, autre principe, Eshura. Alors, ce moment-là, Allah nous dit, les musulmans, ce sont ceux qui se concertent dans leurs affaires. Amruhum shura baynahum. On sait qu'en islam, quand on est un groupe comme ceci, il faut se concerter. Qui a appliqué ça? Le prophète, as-salam, il a amené les compagnons et il discutait avec eux. Il avait ça à Uhud. Est-ce qu'on sort pour aller se battre ou est-ce qu'on reste? Lui, il était pour la vie qu'on reste. La majorité était pour qu'on sorte. Il a suivi la majorité. Donc on se concerte et on suit la majorité. Abu Bakr a fait la même chose. Mais Omar, il a gardé le principe, changé la méthode. Pourquoi? Parce que l'islam s'étendait maintenant sur une très très grande, un très grand espace territorial. C'était très large. Il ne pouvait pas réunir les gens comme ça chaque décision. Alors pour les décisions rapprochées, il les réunissait. Mais quand il s'agissait de prendre une décision pour l'ensemble, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait le pèlerinage. Et il a transformé le pèlerinage, en plus de du pèlerinage en tant que tel, en réunion de tous les délégués à travers le monde musulman. C'était un congrès de tous les délégués. Il a gardé le principe, il a changé la méthode. Parce qu'on n'est plus à la même époque. L'islam est dans un trop grand territoire pour qu'on puisse faire comme le prophète, as-salam. Il réunissait les gens. Donc il garde le principe et il change la méthode. Aujourd'hui, en l'an 1421, en l'an 2001, d'accord, nous sommes en l'an 2001 maintenant, je peux faire une concertation, par exemple, avec des ulama. Je peux mettre un ordinateur en Égypte, un ordinateur en Arabie Saoudite, un ordinateur en Inde, un ordinateur en Europe, aux États-Unis, avec des grands savants. On leur met un ordinateur, s'ils savent l'utiliser, à la barakatillah, ou on leur met quelqu'un qui l'utilise. Et on l'envoie une question, une demande de fatwa. Ils peuvent, sans bouger leur lieu, sans bouger de chez eux, faire une concertation internationale. Le principe de la délibération reste, mais on a utilisé les moyens modernes. Ça, c'est possible. On a le principe, mais la méthode change, parce qu'on a des nouveaux moyens. Mais alors, vous avez certains, ils ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Ils vont te dire, attends, ton truc-là, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai une question à te poser. Qui a inventé l'ordinateur? C'est un kafir? Parce que si c'est un kafir, on ne veut pas d'ordinateur. Et là, je vous le dis de cette façon-là, mais on est à la limite de cette réflexion chez certains musulmans. Ils vont te poser la question, qui a inventé ça? Attendez, l'ordinateur, il n'est pas kafir en soi. L'ordinateur, c'est un instrument. Tu l'utilises pour le bien ou pour le mal. Et tu ne vas pas te poser la question de savoir qui l'a inventé. Parce que si tu veux te poser la question, alors la personne dit, non, pas d'ordinateur, ça c'était pas à l'époque du prophète, il n'y a pas d'ordinateur, enlève les ordinateurs. Il faut réunir les savants autour de la table. Attends, non, il y a encore un problème, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de table, enlève les tables, assis par terre. Et ça, ça existe chez certains musulmans, c'est cette idée-là. On doit vivre comme eux, assis par terre, en tailleur, et on réfléchit comme eux. C'est ça la sunna. Mais non, le principe de la concertation reste, mais on utilise tous les moyens. Parce que alors, sinon, on est vraiment perdu, là. Tu vois, la lumière éteint, les lumières, c'est un kafir qui l'a inventé. Et si tu enlèves tout... C'est l'instrument ne dit rien sur le plan éthique, c'est toi qui lui donnes une dimension. Donc, la... On a de ce point de vue-là le principe comme la da'wa, le principe comme la shura, et on doit utiliser des méthodes modernes qui nous permettent d'appliquer au mieux. Et ça, c'est vrai aussi dans tout ce qui concerne aujourd'hui les processus de délibération. Vous êtes dans une société où on vous dit, pour connaître votre opinion, on vous demande de voter. C'est le moyen qui permet, dans une société complexe, de gérer la délibération. Ben, nous, on n'a aucun problème avec la méthode. Et le principe, pour nous, on s'y attachera. La méthode est bonne à partir du moment où elle respecte la possibilité de faire ce principe-là dans l'époque qui est la nôtre. Donc, deuxième principe, des principes universels qui ne changent pas, des principes universels dont l'application change. Troisième des principes, il y a en islam des choses essentielles et il y a en islam des choses secondaires. Oui ? Et le grand problème, c'est qu'il ne faut pas confondre l'essentiel avec le secondaire. Il y en a, ils sont totalement négligents avec leurs prières. Leur prière, c'est une fois sur 14. Mais alors, si tu leur parles du halal, de la viande, ils te mettent la communauté en émoi. Tu te dis, attends, la prière, c'est moins important. La prière, c'est plus important que le halal. Il faut mettre les choses dans leur ordre. Et quand tu penses un projet pour une société, il faut d'abord protéger l'essentiel avant de se disputer sur le secondaire. Il y a des choses qui sont secondaires et qu'on peut prendre plus tard, avec lesquelles... Il faut peut-être des adaptations sur le secondaire pour parfois protéger l'essentiel. Et ça, parfois, un certain nombre de nos frères et de nos sœurs ne comprennent pas que pour protéger l'essentiel, on peut parfois pondérer l'importance d'une chose secondaire. Parce qu'en islam, il y a des choses qui sont premières, il y a des choses qui sont secondes. Et darurat, c'est ce qu'on doit protéger d'abord. Et puis ensuite, et tahsiniyat ou le hajjiyat, ça vient ensuite. On a des choses qui sont de degrés différents. Il faut protéger l'essentiel avant le secondaire. Quatrième principe, il y a en islam la dimension des étapes. Si le Coran a été révélé sur 23 années, il a été révélé sur 23 années pour faire évoluer des mentalités. Et prenons un exemple. Vous le savez en général, l'interdiction de la viande, de l'alcool, de la viande, de l'alcool, ça va bien, je suis en pleine forme, l'interdiction de l'alcool en islam s'est faite sur 3 étapes. Sur combien d'années? Selon les recensions de Suyuti, 9 années. Vous vous rendez compte? 9 années pour qu'on parte d'un premier verset qui dit « Il y a plus de désavantages que d'avantages. » Et ensuite, n'approchez pas de la prière alors que vous ne savez pas ce que vous dites, pour terminer par « Éloignez-vous-en. » Cessez. Ces 3 versets sont révélés sur 9 années. Et Dieu... Allah SWT, il est en train de transformer des mentalités. Et pour l'alcool, 9 ans. Pour une habitude de boisson. Quand tu penses un projet de société ou quand tu penses un projet personnel, il faut aussi comprendre qu'il y a des étapes. Que tu ne peux pas tout faire tout de suite. Certains d'entre nous, ils vont parler à quelqu'un en une soirée, ils aimeraient qu'il soit changé. Quand tu lui parles de l'islam, il ne veut pas, laisse tomber, il est fini, c'est un kafir ou c'est un rasi. Attends, une soirée, tu lui parles, Allah subhanahu wa ta'ala, pour arrêter l'alcool, il lui faut 9 ans. Toi, tu fais en une soirée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, lui, dans l'instant, mais lui, pour changer l'alcool, il a, pour nous faire comprendre sa pédagogie, il faut du temps pour changer les habitudes, il faut du temps pour changer les... Donc, attention, à des moments donnés, un certain nombre aussi de nos frères, dans leur compréhension de l'islam, ils aimeraient tout changer tout de suite. Non. Tu changes par étape et tu commences par l'essentiel. Puis tu vas vers les choses les moins essentielles. Donc tu prends ton temps parce que tu sais que tu vis avec des êtres humains et que les êtres humains ne se changent pas du jour au lendemain. Donc quatrième principe, le principe des étapes. Cinquième principe, et ça c'est un principe important, on le sait. En islam, le principe premier dans les affaires sociales, dans toutes les affaires, mais spécifiquement dans les affaires sociales, on dit... Le principe dans les choses, c'est la permission. Dans les affaires sociales, tout est permis tant que tu ne viens pas avec un texte qui me dit « ça, c'est interdit ». quand je fais la prière, je ne peux prier que sur la base d'un texte qui me dit tu pries comme ça. Parce que le prophète nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Bien, ça on le sait. On prie comme on l'a vu. Donc il nous faut un texte pour nous dire ça tu peux faire. Est-ce que je peux mettre la main comme ça? Il y a un texte qui te dit que le prophète mettait la main comme ça, donc tu peux le faire. S'il n'y a pas de texte, tu ne peux pas. Donc dans tout ce qui est la pratique cultuelle, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, tu ne peux faire que ce sur quoi nous avons un texte. Par contre, dans les affaires sociales, tout est permis. Et pour que tu ne puisses pas faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire, regarde, dans ce texte-là, ça te dit, c'est haram, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est interdit. Donc, tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est très important. Toute pratique culturelle dans un pays donné qui ne s'oppose pas à un principe islamique devient islamique de fait. C'est-à-dire, on l'apprend. Parce qu'elle ne s'oppose pas à un principe énoncé. Mais j'aimerais que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire. Quand on a compris ça, ça nous change complètement la tête. Parce qu'il y en a qui, par rapport à l'islam, sont toujours en situation réactive. Alors, Allah ne nous a pas dit ça. Tant qu'il y a une pratique de quelqu'un qui ne s'oppose pas à un texte, tu l'apprends. Tant qu'elle est bonne et qu'elle ne s'oppose pas à un principe. C'est le cinquième principe. Donc, je les répète très rapidement. Un, premier principe, « Ash-shahada wa ash-shari'a ». « Ash-shahada » être, « Ash-shari'a » comment être musulman. Deux, il y a en islam des choses, des principes éternel, universel, qui ne se modifie pas, immuable, et des principes dont l'application et les modalités se changent selon ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est tu sur certaines choses. Sakata an ashiya rahmatan lakum bi ghayri nisyan. C'est-à-dire, il s'est tu sur la façon de les appliquer par miséricorde pour nous, pas par oubli. Il sait très bien qu'on va devoir réfléchir dans l'histoire pour pouvoir les appliquer. Deuxième principe. Troisième principe, il y a des choses essentielles et il y a des choses secondaires. Quatrième principe, il y a le système des étapes. On change les choses par étapes. Alors, ce moment-là nous a fait comprendre qu'il fallait changer notre voie. Elle se construit par étapes. Ce n'est pas d'un coup qu'on change les choses. Et cinquième principe, tout ce qui ne s'oppose pas à un principe islamique est accepté par l'islam au nom du principe premier de la permission originelle. Et nous, c'est une religion très ouverte qui nous dit « t'es innocent » et la permission est originelle. Bien, ces cinq principes, c'est comment nous devons considérer nos textes. Une fois que j'ai dit ça, alors maintenant je réponds à la deuxième question et en même temps je conclue. La deuxième question, c'est comment comprendre le contexte français à partir de mes références? Comment je vais comprendre là où je vis? Comment je vais construire ma vie, ma voie dans ce pays? J'ai mes cinq principes-là essentiels. Maintenant, je suis dans un contexte. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre les gens qui sont musulmans, même s'ils sont français de confession musulmane ou qui sont résidents depuis des années, tu t'aperçois qu'en fait, ils connaissent mal le pays dans lequel ils vivent. Ils le connaissent mal parce qu'ils l'étudient peu. Ils étudient peu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, sourate 49, Al-Hujurat, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. C'est-à-dire, nous vous avons constitué en nation et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez. S'entreconnaître, ça veut dire, je dois connaître les gens avec lesquels je vis. Je ne suis pas un ignorant perdu dans le pays en pensant, je suis dans un territoire sinistré, ce n'est pas le mien. Pour que nous nous entreconnaissions, autant les gens doivent te connaître, autant tu dois faire la connaissance, tu dois mieux connaître l'environnement. Et tu demandes à des gens, qu'est-ce que tu connais de ce pays au niveau historique? Rien du tout. Qu'est-ce que tu connais au niveau des institutions? Rien du tout. Qu'est-ce que tu connais au niveau des gens? Rien du tout. Tu vis dans un lieu que tu ne connais pas et tu aimerais te faire reconnaître. Mais comment veux-tu te faire reconnaître par des gens que tu ne connais même pas? Par des lieux que tu n'étudies pas, par des histoires que tu ne sais pas. Il faut savoir dans quel pays tu vis, il faut savoir dans quelle histoire, et savoir aussi dans quelle culture, et savoir aussi dans quel principe et dans quelle institution. Donc, premier élément que nous devons mettre en avant, la connaissance de l'environnement, la connaissance du lieu où nous sommes. Et malheureusement, c'est un grand déficit. Beaucoup d'entre nous n'ont pas fait l'effort de connaître le lieu où ils vivent. Et ils le critiquent, mais ils ne le connaissent pas. Et ils critiquent les gens généralement, mais ils ne les connaissent pas. Premier élément, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit pour vous entreconnaître comme une exigence essentielle. Deuxième élément, par rapport à cela, c'est que nous avons à reconnaître une chose qui n'était pas évidente il y a quelques années pour beaucoup, beaucoup de savants et pour beaucoup de leaders. C'est qu'aujourd'hui, quand on vous observe comme ceci, en France, en Europe, d'un point de vue général. Vous êtes intégrés socialement. Beaucoup d'entre vous ont des comportements sociaux très français. Vous êtes intégrés et vous faites partie de ces sociétés-là. Que vous portiez une tenue vestimentaire X ou Y, ce n'est pas le problème. Dans votre façon de parler, dans votre humour, dans votre façon de regarder des, un certain nombre de films, ou de, si je mets un film d'origine marocaine ou égyptienne, il y en a d'entre vous, ça ne va même pas aller faire rien. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ma culture, ça. Ce n'est pas mon goût. Donc, aujourd'hui, l'intégration dans ce pays, elle s'est faite. Votre langue aussi. Ben, regardez aujourd'hui combien parmi vous maîtrisent la langue de leur père. Peu. Et quand ils la maîtrisent, c'est un mot sur quatre. Il dit, voilà, qu'est-ce que tu sais. Bon, ça, c'est ni arabe ni français. C'est comme on disait, les Égyptiens, ils disent calcabation. Calcaba, ça veut dire le désordre. Et ation, c'est anglais, calcabation. Vous pouvez... Qui est une distorsion complète. On n'est plus d'ici ni... Mais raison pour laquelle, à un moment donné, quand on vous écoute, quand on vous voit, vous êtes intégré socialement. Donc l'intégration, elle est cette espèce de vieux concept où on nous a bassiné avec ça, il faut vous intégrer, c'est fait. L'intégration, c'est un concept dépassé. C'est même un concept aujourd'hui piégé. Pour ceux qui sont encore en train de nous parler de... Non, c'est maintenant, on est là. On est de ce pays, on est des résidents, on est des citoyens. Bien. Et on est là, c'est notre pays pour la... Pour l'avenir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment maintenant considérer notre voix ici. Alors, c'est ça qui est le plus important, sur lequel j'aimerais beaucoup insister à partir de, un, la connaissance qu'on a de l'environnement, et deux, le fait que nous sommes ici. Qu'on revienne à nos principes, ce que j'ai dit. Nous sommes dans la shahada, tous, et nous essayons de trouver notre voix, la sharia en France. La sharia, c'est-à-dire l'application de comment rester musulman, un. Le deuxième élément, aussi, qui doit sortir de cela, c'est les principes qui sont universels et qui ne changent pas, je ne vais pas commencer à discuter. Je prie comme le prophète, je pratique comme je pratique. Je suis lié au tawhid et je suis lié à une communauté de foi. Les principes universels, je ne les bouge pas. Ils sont universels partout, je m'y tiens. Maintenant, il y a des principes qui sont universels dans leur formulation, mais changeants dans leur application. Comment aujourd'hui je vais établir la question de la da'wa en France, de la shura en France? C'est-à-dire comment je vais utiliser tous les moyens modernes pour mieux l'appliquer? Ça, c'est un vrai travail, il faut se poser la question. Comment ma voix, elle va se déterminer? Le principe de concertation est important. En même temps, je dois savoir une chose, écoutez-moi bien, tout ce qui en France, dans la culture française, dans la société française, dans l'économie française, dans la législation française, à partir du moment où j'ai considéré une chose, et il faut être clair là-dessus, comme résident de ce pays ou comme citoyen, je respecte la Constitution, c'est un principe islamique. Je respecte la Constitution, j'ai un accord, un contrat moral avec le pays dans lequel je suis. Donc je respecte cette Constitution-là. À partir du moment où je respecte ce cadre-là, tout ce qui dans ce pays, de point de vue social, culturel, est économique et légal, ne s'oppose pas à un principe islamique, ça devient islamique. Et c'est là où j'aimerais vous proposer une révolution intellectuelle. Le grand problème que nous avons en tant que musulmans dans ce pays, c'est que nous y venons peureux et sinistrés. Je suis musulman, et moi, ma conscience de l'islam, c'est que c'est haram. Attention, haram, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, ça c'est pas islamique, c'est des kuffars, c'est quoi? Et finalement, tu deviens un être totalement sinistré, complexé de tout, t'as peur de tout et de tout le monde, t'as peur de toi. Et la réalité, c'est que tu rentres dans ce pays avec l'idée que, oui, je dis avec la bouche que je suis chez moi, mais j'y marche comme sur des œufs. T'es là. Et puis, regardez le type de questions que des fois on se pose, c'est tout, est-ce que je peux, est-ce que tu crois? Attends. T'es pas en train de marcher sur une bombe, là. T'es chez toi. Et quand t'es chez toi, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui ne s'oppose, tant que ça ne s'oppose pas à mes principes, je prends, c'est islamique. Maintenant, la vraie question que je dois faire pour savoir si ça ne s'oppose pas, c'est connaître le lieu où je suis. Et je dois le connaître à différents niveaux. Sur le plan social, tout ce qui ne s'oppose pas à mes principes, je prends. Sur le plan culturel, tout ce qui ne s'oppose pas, je prends. Partout où le musulman voit de la sagesse et que ça ne s'oppose pas à ses principes, il prend. Et alors la révolution intellectuelle, c'est ceci. Sur le plan social, je m'intègre. Mais sur le plan islamique et intellectuel, j'intègre. C'est moi qui intègre. Je prends tout ce qu'il y a de bon partout où je le trouve. Ça change tout, ça, dans ta tête. Comprenez bien, si tu entres avec ce petit esprit, t'as peur de tout, t'es désintégré. Alors tu te dis, pour marcher droit, il n'y a qu'une solution. Je mets une œillère à gauche, une œillère à droite, et je vais tout droit. Je vois personne. Mais l'islam ne nous a pas dit ça. L'ita'arafu, c'est pour que vous connaissiez. Et que tu te dises, dans ce pays, tout ce qui ne s'oppose pas à mes principes islamiques, tout ce qui est lié pour moi à quelque chose de possible, je le prends. Alors observons trois cas sur le plan social. Non, commençons sur le plan politique. Je vous en prie pour que ça fasse le lien avec ce que je disais. En islam, on sait que ce qui nous lie, c'est la shura. Notre principe, c'est de nous concerter ensemble de nos par rapport à nos affaires. Bien. En France, aujourd'hui, la concertation passe par l'élection. On te dit, mets ton vote, et c'est comme ça qu'on demande ton opinion. Est-ce qu'on a un problème avec la méthode? Aucune. On n'a pas de problème avec la méthode qui consiste à mettre... C'est une méthode moderne pour appliquer un concept ancien de délibération. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je veux aussi l'appliquer avec mon supplément éthique. C'est-à-dire, je vais prendre cette méthode-là, mais en même temps, je vais y apporter ma contribution éthique. Qu'est-ce que me dit l'islam? L'islam me dit... Quand tu dois choisir quelqu'un à un poste, il faut qu'il soit compétent et honnête. Donc moi, je garde la méthode, puis je vais y ajouter compétence et honnêteté. Quand il y a un élu local qui vient dans la région, il dit « Ah, les musulmans, vous m'intéressez. » C'est en période électorale, vous avez compris. « Vous m'intéressez. » Si vous pensez à moi, je pense à vous. Les votes contre la mosquée. Nous, du point de vue du principe islamique, c'est inacceptable. Si tu viens m'acheter aujourd'hui, c'est que demain tu vas pouvoir me vendre. Si avant les élections tu m'achètes, demain après les élections, je sais que tu peux me vendre. Parce que tu n'es pas honnête. Je ne veux pas de ça. Comment je dois agir comme citoyen si je veux suivre les principes? Le principe de l'élection, ça n'a rien d'opposé à l'islam. Mais par contre, je veux ton programme. Je veux voir, je veux lire ton programme. Qu'est-ce que tu nous proposes comme programme électoral? Point 1, point 2, point 3, point 4. Ça m'intéresse. Je veux le programme de l'autre. Je vais étudier les propositions des électeurs. C'est-à-dire que je vais devenir un citoyen, mais je vais y ajouter une conscience citoyenne qui part de mes principes à moi, qui ne s'oppose absolument pas à la Constitution française. Au contraire, qui fait renouer dans ce pays la pratique politique avec des principes éthiques. Et Dieu sait, on en a besoin. On a besoin de principes éthiques pour pas que des gens deviennent électoralistes. La seule chose qui les intéresse, ils sont prêts à tout vendre tant que tu votes pour eux. On ne veut pas de ça, nous. On veut des gens honnêtes. Donc, on renoue et on prend les programmes politiques de X, telle personne qui veut être élue, telle autre personne qui veut être élue. T'es musulman, t'es incompétent, je peux pas voter pour toi. T'es musulman et t'es malhonnête, je peux pas voter pour toi. T'es non-musulman, t'es compétent et honnête, tu m'intéresses. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que le prophète sallam nous a dit, celui qui met à un poste quelqu'un qui n'en a pas la compétence, il trahit Dieu, le prophète et toute la communauté. Donc on a des principes. Donc on prend tout ça, et puis on y applique nos principes. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est changer complètement notre esprit. Je prends tout ce qu'il y a de bon, et j'y apporte ma contribution éthique. Ça veut dire sur le plan... de la citoyenneté, apporter une citoyenneté noble, mais pas cette espèce de cirque que parfois on est en train de nous faire. Quand vous lisez ce qui s'est passé il y a 4 ans, une des raisons qui a permis à Clinton d'être élu il y a 4 ans, c'est que 60% des femmes considéraient qu'il était good looking. Il a une bonne tête. Mais quand une démocratie passe autant par l'image, et que finalement, quelqu'un qui a un bon visage, on dit « Ah, il est mignon, je vote pour lui ». Mais c'est quoi ça? Quelle citoyenneté c'est ça? Quelle citoyenneté quand on a vu des millions de dollars pour pouvoir passer un clip à la télévision? Des millions, on est devenu dans une élection où celui qui passe, c'est celui qui a le plus d'argent. Ben nous, notre idée, c'est que le principe est bon et nous allons y apporter nos principes à nous, nos principes éthiques. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan social, vous êtes dans un pays où il y a énormément d'actions de solidarité, n'est-ce pas? Énormément d'actions de solidarité, on encourage. Est-ce que c'est contre l'islam, ça? Absolument pas. On prend tout ça et on y applique, nous, avec honnêteté, non pas simplement pour les musulmans, mais pour toute la société. Une société qui propose des actions de solidarité, un État qui propose des allocations de solidarité. Ben, tout ça, c'est bon. On y prend, mais juste, avec justice. Donc, on prend les principes. Vous avez compris ? On intègre islamiquement tout ce qu'il y a de bon. C'est, ça fait partie. Tout ce qui ne s'oppose pas à mes principes, je mets dessus islamique, je prends. Je deviens intégrateur du bien. Et tout ce que je ne veux pas, je m'en éloigne. Tout ce qu'on me contraint, alors là, c'est là que je vais demander une fatwa. Si on me dit, pour ce travail-là, tu dois prendre une assurance X ou Y, ben là, tu vas demander à quelqu'un qui connaît l'islam et qui va te dire, ben là, tu vas t'adapter de cette façon-là. C'est-à-dire que dans les quatre contraintes, l'islam te permet de prendre des solutions pratiques, pragmatiques. On a ça en islam, c'est très pragmatique. Tu as un problème de contrainte, c'est pragmatique. Mais attention, il faut mesurer la contrainte, parce que pour certains, la contrainte, elle est très rapide. Il m'a mal regardé, je suis contraint, je fais comme ça. Non, c'est quand c'est une vraie contrainte légale. Dernier élément, la culture, et j'aimerais beaucoup insister là parce que c'est le dernier point sur lequel on va parler, la culture. Tout ce qui, dans la culture dans laquelle nous vivons, ne s'oppose pas à l'islam, on peut le prendre. Sur le plan, alors, pour certains, le cinéma, c'est haram, la musique, c'est haram, et ça, on les respecte. En islam, il y a certains savants qui ont dit ça, hein, on les respecte. Tu ne veux pas écouter de musique, tu ne veux pas de cinéma, tu ne veux pas lire, d'accord. Ça te regarde. D'autres savants nous ont dit que ce qui est halal, et ce qui est haram, c'est ce qu'on avait demandé une fois à un cheikh. Moi, je viens de cette tradition-là, c'est ce qu'on m'a toujours enseigné, et qui est une tradition islamique reconnue et respectée. On lui avait posé la question, on lui dit, mais le cinéma, c'est haram ou c'est halal? Et il avait dit, cinéma halal, halal, pas cinéma haram, haram. C'est-à-dire que le cinéma, que tu sais, toi, tu es devant le cinéma, tu vois qu'il y a des choses à pas regarder, ton cœur, il t'a déjà dit que c'est haram. Maintenant, si tu restes, c'est ton affaire. Mais tu sais qu'elle... Et puis, il y a du cinéma qui est un cinéma noble, digne. Simplement, attention à ne pas confondre, sous prétexte que tu aimes le cinéma, de regarder l'indigne, de regarder ce qui n'est pas moral. Mais en islam, dans le cinéma, ou même dans la musique, ou même dans les livres, tout ce qui ne s'oppose pas à tes principes, prends-le. Regardez où on en est, nous. Allez dans une bibliothèque islamique. Vous rentrez dans une bibliothèque islamique, qu'est-ce qu'il y a dans une bibliothèque islamique? Des livres sur l'islam, écrits par des musulmans, pour les musulmans. Mais on est sinistré, quoi. C'est une prison. Tout le reste ne nous intéresse pas, mais depuis quand? Depuis quand les musulmans, quand ils sont allés en Afrique, quand ils sont allés en Indonésie, c'est pas du tout l'idée qu'ils avaient. Tout ce qui est bon, on prend. Ouvrez un tout petit peu ces bibliothèques, mettez des livres, choisissez-les, sélectionnez dans la culture française des choses qui sont bien. Victor Hugo, c'est un des grands penseurs, c'est un grand écrivain. Non, Victor Hugo, non, c'est pas islamique. D'or. On va tout sortir, et on a tout sorti. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans cette société comme des peureux. On a peur, on n'a pas confiance dans nos principes. L'islam, il a des principes universels. Il faut avoir confiance. J'ai pas. Si vous pouvez avoir peur pour les musulmans, il ne faut pas avoir peur pour l'islam. Dans la littérature, moi, mes parents qui ont vécu l'exil, et je le raconte tout le temps, ils n'avaient aucune crainte à me donner un livre de sciences sociales, un livre de poésie, la littérature française. Mais attendez, on n'est pas... Qu'est-ce que tu lis? Mais je lis quelque chose qui n'est pas en opposition avec mes principes. Et comme ce n'est pas en opposition avec mes principes, ça fait partie de ma culture. C'est ma culture dans ce pays. Je ne vais pas commencer à dire, on ne m'a pas imposé pour être un bon musulman d'être un musulman en France marocain ou pakistanais. Parce que franchement, entre nous, si vous regardez la culture marocaine ou pakistanaise ou égyptienne, tout est 100% halal. Tu parles. Vous savez bien que c'est une production aussi de choses, il y a du bien, il y a du moins bon. Nous, ce qu'on doit faire, c'est changer nos têtes. Je viens en France avec beaucoup plus de confiance dans mes principes. Et tout ce qui est bon, je le prends. Toutes les attitudes, tout ce qui est produit. Dans la littérature, il y a des choses. Ouvrons. Dans la production cinématographique. Bon, moi, on m'a, à un des moments donnés, conseillé de voir un film en disant, cela, tu vas beaucoup apprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il y a des films qui ont construit mon intelligence. Tous les films ne sont pas haram. Celui qui pense ça, il a une école et on peut le respecter. Mais d'autres vous disent, c'est pas... Donc il faut ouvrir les esprits. Ouvrir les esprits et notre sharia et notre perception est intégratrice. Vous m'entendez? Je suis intégré socialement et j'intègre islamiquement. Tout ce qui ne s'oppose pas à mes principes. Mais j'aimerais que vous vous rendiez compte, et c'est ça ma conclusion, combien ça doit changer notre état d'esprit. Ça change tout. C'est pour ça que j'appelle ça une révolution intellectuelle. Je suis plus sinistré, complexé, peureux, tout me fait peur, mais un doigt de pied ici, un doigt de pied là, comme si je marchais sur des œufs. Non, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes et je fais un travail très important de sélection. Je sélectionne les choses, je fais la différence et j'apporte une contribution éthique là où je dois l'apporter. Si j'ai un problème de contrainte, je l'étudie en tant que tel. Mais tant que j'ai la liberté, j'intègre les choses. Donc, tout ça, ce sera notre... Tout ce qui ne s'oppose pas, ce sont des acquis. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur tous les... sur le plan économique. On prend, et on sélectionne. Mais j'aimerais vous dire une chose. On ne peut faire ceci que quand on a confiance en soi. Et le problème, c'est que la plus grande réussite de la colonisation intellectuelle dans cette communauté, c'est qu'il y a énormément de musulmans, ils n'ont pas confiance en eux. Et la confiance en eux, elle vient du manque de confiance en Dieu et de compréhension de l'islam. Parce qu'on comprend mal l'islam, on a l'impression que tout est haram. L'islam, c'est une religion qui a ouvert les portes de l'innocence et de la permission, mais avec des exigences. Quand il y a une limite, il y a une limite, et il faut la connaître. Et donc tu dois choisir. Tu dois choisir les limites. Mais tu ne dois pas te mettre dans une espèce de carcan intellectuel et spirituel qui fait qu'on a toujours l'impression de parler à quelqu'un qui a peur, à quelqu'un qui est craintif, à quelqu'un qui est frileux. Jamais ça a été comme ça. L'islam s'est installé en Afrique, en Indonésie, en Asie, avec la confiance. Je suis avec Dieu, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne dois pas faire, et j'avance. C'est peut-être par cette compréhension-là qu'on pourra aborder la prochaine fois, Inch'Allah, la construction très pragmatique que je vous propose de voir ensemble, Inch'Allah. J'ai été trop long, comme d'habitude, mais il faut s'attendre à ça par un Suisse. N'est-ce pas? On en prend pas.
Je m'excuse par avance, on ne pourra pas poser toutes les questions, vu qu'on est pressé par le temps. Je prends la première, elle est très importante, vu que c'est une question de témoignage. Comment porter le voile lorsqu'on est une jeune musulmane en France? Connaissant les conflits que cela peut entraîner avec ses patrons, ses collègues, peut-on être une vraie musulmane sans voile? Puis la deuxième question concerne aussi le hijab, la question du hijab face aux études, travail, etc.
Bien. D'accord. Que le fait de porter le hijab, le foulard, il s'agit de foulard. Si on parle la langue française, il ne s'agit pas de voile. D'accord ? La signification du voile, c'est autre chose. Le foulard, c'est ce qui couvre la chevelure, et c'est de ça dont on parle. Il faut faire attention aux mots, parce qu'ils ont des formulations, et même moi, un temps, on utilisait ceci, puis finalement, la réflexion, on dit, non mais attendez, c'est pas... Il faut qu'on soit très très clair sur la définition des termes. La difficulté qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, comme dans d'autres, de porter le hijab, est une difficulté qui est connue. Maintenant, on a deux solutions. La première des choses, c'est que l'on sache que c'est une obligation de l'islam, mais que ça ne peut pas faire l'objet d'une contrainte. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala le demande aux femmes, mais que chaque femme doit se déterminer en conscience, savoir que c'est une obligation, et plus elle veut avancer vers une pratique plus complète, plus elle ira dans ce sens-là, à son rythme. Il faut respecter le rythme des gens et leur choix. En sachant une chose, il ne suffit pas de porter le hijab pour entrer au paradis, et ce n'est pas parce qu'on ne porte pas qu'on entre en enfer. Donc à partir de cela, la seule chose qu'on peut faire, c'est respecter le rythme de chacun et se taire sans juger la personne. Parce que c'est effectivement une obligation, c'est effectivement quelque chose qui est demandé, mais à partir du moment où on sait que ça ne peut pas faire l'objet d'une contrainte, laissez les femmes aller à leur rythme et les respecter de ce point de vue-là. Et il y a des femmes qui sont très proches de Dieu, très pudiques, qui font très très attention et qui ne le portent pas. Et il y en a qui le portent et qui sont moins. Nous, ce qu'on sait, c'est que c'est une obligation, mais il faut de ce point de vue-là laisser les femmes se déterminer dans leur rythme. Mais qu'elles ne disent pas en même temps qu'elles choisissent de ne pas le mettre, non, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que non, c'est une dimension ici du fait de le porter et d'aller dans le sens de cette réalité-là. Alors, à partir du moment où on a dit cela, On a dit que c'était ce cadre-là, que l'on sait ce que l'islam exige, mais on sait aussi ce qu'il ne nous permet pas d'utiliser la contrainte. C'est que chaque femme, de ce point de vue-là, a à se poser la question de son cheminement. C'est difficile. Alors après, il faut se poser la question de savoir, bon, est-ce que moi je suis là simplement dans l'idée de ce que les gens vont penser de moi, ou est-ce que finalement, au nom de mes convictions, je vais aussi me faire respecter? Avec le temps, les choses vont changer. Ce qui s'est passé là, ces années, dans les années 89, aujourd'hui, maintenant, on est en train de voir que c'est en train de diminuer et que les choses évoluent. Mais il faut aussi qu'on soit présent dans la discussion au niveau national. Il faut qu'on se fasse... Regardez, je vous donne un exemple. Tout à coup, il y a eu ces questions de jeunes filles qui portaient le hijab à l'école. Et puis, certains enseignants se sont trouvés face à face avec des jeunes filles. Ils n'avaient jamais vu les parents. On est absent des lieux où on doit pouvoir discuter, les lieux dans les associations de parents, les rencontres avec les enseignants. C'est comme ça que les gens se connaissent. C'est comme ça que des enseignants voient des parents, sachent qu'on peut discuter avec et puis qu'ils respectent leurs enfants. Il faut qu'on soit présent et puis qu'on explique ce que c'est. Et là, beaucoup, on a commis une erreur, on a compris, c'est contre l'islam qu'ils sont. Oui, pour certains, c'était une guerre à une certaine façon de comprendre l'islam selon eux. Mais il y a aussi que nous sommes très absents de l'explication, et les frères et les sœurs. Expliquer ce que c'est qu'un acte de foi, expliquer pourquoi on le fait. Donc il faut beaucoup expliquer qu'on peut être une femme libérée sans être une femme occidentalisée. Occidentalisée au sens de la tenue vestimentaire. Ça, c'est aussi important, tout le domaine de l'explication. Et qu'à partir d'un certain moment, que chaque femme aussi, de ce point de vue, fasse son choix et chemine. Il faut évoluer par rapport à ça. Et si c'est un appel du cœur, si on le sent, si on sent qu'on est prête, à un moment donné, ben, il faut l'oser sans se fermer. L'oser, en oser le faire, et puis en se disant, c'est pour Dieu que je le fais, il faut que je fasse attention à ce que l'épreuve de la peur du regard des gens ne fasse pas en sorte que je devienne une jeune femme craintive et peureuse. Oser le porter, oser expliquer ce que c'est, et puis aussi habituer les gens à cette présence-là. Parce que si toutes les femmes, de ce point de vue, disparaissent de cette pratique en disant oh mais dans la société française finalement on va habituer cette société là à autre chose qu'une présence positive, une présence de reconnaissance et du dialogue, je pense que là c'est une erreur. Donc il faut un certain courage, c'est certain, il faut beaucoup de patience, il faut aussi que cette communauté développe un rapport au droit qui soit cohérent. Rien ne s'oppose au port du hijab, nous a dit le Conseil d'État, ni dans les écoles, ni ailleurs, que la réalité de l'application de la loi et de la lutte contre la représentation, ben, il faut s'y engager, puis il faut être patient. Mais là aussi, il y a certaines femmes qui le vivent très très mal et qui aimeraient que ce soit la priorité des priorités pour tous les musulmans. Il y a des choses qui sont essentielles pour lesquelles maintenant il faut construire une présence. Il y a ces éléments-là qu'il faut continuer à accompagner en essayant et en espérant, en faisant en sorte effectivement qu'on puisse répondre à toutes les exigences pour les femmes qui désirent le porter et qu'elles trouvent leur place dans cette communauté. Donc, expliquer ce que c'est, respecter les rythmes de chacun et faire en sorte qu'à un moment donné, eh bien, on ose le faire, et puis il faut aussi se faire entendre par la législation, se faire entendre par le droit, et faire en sorte d'être respecté par rapport à ça. Mais vouloir éviter les conflits en se disant, bon, ben, si je le porte pas, mes patrons m'accepteront, il n'y aura pas de problème avec les collègues, il n'y aura pas de problème à l'école, et puis... Alors là, finalement, c'est pour éviter le problème disparaître complètement, délaisser quelque chose qui est quand même une chose importante dans notre tradition islamique, et ça n'est pas la bonne solution. C'est pas comme ça qu'on explique aux gens qui vivent autour de nous ce que l'islam nous demande. Mais ça demande, encore une fois, beaucoup de courage, le temps de l'explication, puis surtout une chose, quand on se sent aller dans ce sens-là et qu'on se sent prête, il faut avoir aussi ce courage en se disant... C'est un courage, et puis il faut une communauté aussi qui soutienne. Et le nombre de sœurs à travers la France, à travers l'Europe, qui aujourd'hui, dans un acte de courage, eh bien, font face à ce qu'on peut dire d'elles, eh bien, ça doit mériter notre respect et notre soutien, et la continuation de l'explication en se disant une chose. Plus on expliquera, plus on sera présent et des femmes avec leur hijab présentes sur le plan social, présentes dans la discussion, expliquant leur démarche, expliquant qui elles sont, plus elles seront là, plus on habituera les mentalités et plus les choses changeront. Mais il faut être présent. Et certaines femmes portent leur hijab et disparaissent. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut porter le hijab et il faut être là. Il faut être présent. Il faut s'expliquer. Il faut montrer que... Je veux dire, c'est comme... quelqu'un qui avait entendu une femme qui portait le hijab et qui dit mais elle est quand même intelligente. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est pas innocent. Elle est quand même. C'est-à-dire, elle porte le hijab par sa stupidité, puis elle réfléchit même en dessous. Je veux dire, mais ça vient de quoi? Qui est fautif de cela? Évidemment, c'est une réflexion qui est triste, mais elle vient aussi du fait que souvent on disparaît, on n'est pas présent, on ne se fait pas entendre. Et ça, c'est une erreur. Wallahu a'lam. Oui, une dernière question.
Dernière question, je suis vraiment désolé, on n'a vraiment pas le temps, on est pressé vraiment. C'est une question d'actualité sur le conflit en Palestine. Quel doit être le comportement d'un musulman français? Quel doit être l'engagement d'un musulman français dans un conflit comme celui qui se passe en Palestine? Et pourquoi les musulmans, les pays arabo-musulmans les plus riches ont refusé l'embargo contre les juifs à la demande désespérée de Arafat?
Ça, c'est une longue question. Essayons peut-être d'en dire un mot. Ce que nous avons à être, vous êtes des Français de confession musulmane, vous vivez dans ce pays, il y a trois choses. La première, c'est d'être informé. Et moi, je suis sidéré du degré de très mauvaise information qu'il y a dans cette communauté. On sait juste ce qui est médiatique. Il y en a certains d'entre vous, ils ne savent de ce conflit que ce qu'on a dit à 20h. Ils ne comprennent ni les péripéties, ni rien. Et là, il faut être informé. On ne peut pas défendre des gens dans la désinformation. Il faut savoir de quoi on parle. Information. Et si vous pouvez lire un livre ou deux livres, ou vous renseigner sur ce qui se passe, oui, et bien ça, ce sont des choses qui sont importantes. Important, déjà s'informer, savoir ce qui se passe pour avoir être éveillé. Et quand vous êtes informé, vous lisez, ça vous pousse, ça pousse votre conscience à vous intéresser encore davantage. Un, s'informer. Deux, éviter tout amalgame. C'est-à-dire, on fait une différence entre ce que nous disons sur les juifs, Ahl al-Kitab, le respect de la tradition spirituelle et religieuse, c'est une chose, et la critique que l'on fait du sionisme politique, qu'en est une autre. Nous, ce dont on est en train de parler maintenant, c'est une critique déterminée, approfondie et claire du sionisme politique d'un projet colonial en terre palestinienne. C'est de ça dont on parle. Mais qu'on ne verse pas, comme c'est arrivé dans certaines des manifestations, on est passé de la critique à l'énonciation de la critique sur toute la tradition juive. Et ça, en islam... Ça n'existe pas. Le prophète, sallam, parlant de Ahl al-Kitab, disait, même dans la référence à la société, لَهُمَّ لَنَا وَعَلَيْهُمَّ عَلَيْنَا. C'est-à-dire, et qu'il témoignerait le jour du jugement dernier contre eux, qui s'en seraient pris à des gens qui seraient des protégés dans la tradition musulmane. Et ce qui se passera à la fin des temps dans le conflit est autre chose que la distinction dans notre discours entre l'un et l'autre. Et donc, par rapport à la tradition sioniste, il faut, de ce point de vue-là, sur le plan de la critique politique, être tout à fait précis. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, par rapport à cette situation-là, c'est effectivement de développer un discours qui est un discours approfondi sur la justice et surtout de comprendre quel est notre rôle aujourd'hui. On n'est pas là pour devenir des missionnaires, se taire. On est là aussi pour être la voix des sans-voix. Ça veut dire, à un moment donné, expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. Pouvoir dire aussi, quand... c'est Schwarzenberg, Léon Schwarzenberg, le professeur, le médecin. Il vient de revenir, lui. Il est allé à Gaza, il est revenu. Et le discours qu'il tient, c'est étonnant. C'est quelqu'un qui est de tradition juive. Et il dit, les soldats israéliens ont peur... parce qu'ils ont la peur de ceux qui sont dans un territoire qui ne leur appartient pas, auquel ils n'ont pas droit. Il faut dire la souffrance du peuple palestinien. Lui, il y va, il explique, nous on dit rien. C'est des gens qui parlent pour nous et plus généralement pour la justice. Alors nous, on doit parler pour tout ce qui concerne l'injustice. Mais là, il faut aussi parler, il faut aussi être des témoins de la réalité de ce peuple-là. Il faut de la dénonciation dans la justice, dans la bonne compréhension, dans l'information, pas dans la désinformation, comme je l'ai dit. Et donc, il faut être Il faut se mobiliser de ce point de vue-là pour faire entendre une voix. Pas les musulmans contre tous les autres. Aujourd'hui, dans la société française, les portes sont en train de s'ouvrir. Vous voyez que la presse amène un discours un peu nouveau. On voit des choses nouvelles qu'on ne voyait pas il y a quelque temps par rapport à la tradition, par rapport au conflit palestinien, où il y a des voix qui se font entendre et qui sont critiques. On a même vu des voix de personnes de tradition juive qui étaient critiques à l'endroit d'Israël. Il y a des opportunités. On a même vu d'ailleurs Enrico Macias ou comment est-ce qu'il s'appelle l'autre là, le comique là, hein, Boujna. Alors lui, il fait dans le comique absolu, dans le comique cynique. Il dit, mais vous vous rendez pas compte qu'est-ce qu'ils souffrent, les soldats, derrière leurs fusils quand ils doivent tirer sur des enfants. Non mais ça va pas ou quoi? Maintenant c'est les soldats qui tirent sur les enfants, ils souffrent. C'est eux qui souffrent. Ils tirent sur des enfants, ils souffrent. Ils nous disent, vous ne vous rendez pas compte, c'est la faute aux Palestiniens en fait. Ils n'auraient pas dû mettre les enfants. C'est les soldats qui sont vraiment les martyrs. Je veux dire, vraiment. Et là, je pense que vous êtes au courant des réponses qui lui ont été faites par l'un ou l'autre des intervenants, en particulier Bourras, Jamal Bourras, qui a quand même remis un tout petit peu les points sur les i, parce que c'est quand même des choses qu'on ne peut pas dire. Eh bien, parmi eux, il y a des gens qui ont dit « Oui, la presse française est anti-juive et tout ça. » Je veux dire, la presse française, elle a dit les choses à un moment donné sur ce qui se passait, anti-politique sioniste. Et là, maintenant, quand on voit, même dans les journaux, il y avait la politique dans l'engrenage, on ferme tout, il y a des choses à dire. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être aussi les témoins de ce combat pour la justice, de ce combat pour la justice qui va jusqu'à la dénonciation. Il y avait un deuxième dans la question ?
Non.
C'était ça ? Oui, ça. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est notre rôle, sans amalgame, en étant précis et en dénonçant ce qui doit être dénoncé, Inch'Allah. Que Dieu vous aide, vous aime et vous guide, Inch'Allah. Salam alaikum.